Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur AB Story, le podcast, dans la rubrique Paroles d'auteur. Je suis Rama Likibi, éditeur audio. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'auteur Sylvie G. Nous allons parler de l'une de ses séries qui sera bientôt adaptée en livre audio chez AB Story. Le titre de la série, c'est Chaos. Êtes-vous prêts? C'est parti. Comme je le disais en introduction, je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvie G. Et nous allons parler de l'une de ses séries, qui sera bientôt adaptée en livre audio, dont le titre est Chaos. Avant de commencer notre entretien, je vais donc vous laisser, Sylvie, vous présenter à nos auditeurs.
Mon nom est Sylvie G. Je suis une auteure canadienne. J'ai écrit un peu plus de 30 romans. J'écris surtout la romance, mais j'aime particulièrement les romans psychologiques, les intrigues policières. J'ai un parcours de psychologie et de droit. Je n'ai jamais pensé écrire un roman dans la vie, encore moins plus de 30. Je suis un peu tombée dans la potion de l'écriture à cause des jeunes avec qui je travaillais. Merci de m'inviter aujourd'hui.
Merci à vous d'avoir accepté cette entrevue. Alors, tout de suite, vous venez de dire un élément qui m'a tout de suite intrigué. Vous dites effectivement que vous n'aviez pas prévu, c'était pas du tout dans vos plans d'écrire des romans. Comment ça vous est venu? Est-ce que c'était un accident? Il y a eu des circonstances particulières qui vous ont mené à écrire?
Oui, exactement. J'ai travaillé en intervention et... Un jour, j'étais dans la classe avec les jeunes avec qui je travaillais et souvent les jeunes me demandaient « Madame Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là ou celui-ci? » Et je faisais la réponse qu'on m'a faite quand moi j'étais plus jeune et je disais « Prends ton dictionnaire, ça va faire travailler ta mémoire de travail, tu vas mieux t'en souvenir. » Et un jour, un jeune garçon m'a dit « Ben laisse donc faire, je vais dessiner. » J'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai vraiment pas aimé ma réponse à ce moment-là et je me suis dit, je suis en train de le perdre juste parce que je l'aide pas. Mais en même temps, je me suis fait la réflexion que c'était vraiment triste qu'un jeune soit intéressé à lire, parce que c'est pas le cas de tous les jeunes, mais qu'à cause de mots complexes, ils perdent tout intérêt. Alors, je me suis dit que j'allais écrire une histoire. Jamais ça n'a été dans le but d'écrire pour être publié, mais c'était dans le but de mettre en lecture alternative dans la classe. Je me suis dit, je vais écrire une histoire qui va les intéresser avec des mots simples. De cette façon-là, ils vont peut-être prendre goût à la lecture et plus tard, ils se tourneront vers de vrais auteurs. Donc, c'était un peu un accident, mais c'est un bel accident. Je ferais le même parcours si j'avais le choix, mais c'était vraiment pas dans mes plans.
Et donc, pour prolonger un peu ma question en allant du coup sur Chaos, qu'est-ce qui vous a emmené à écrire cette histoire en particulier, lourde en secret, en drame humain?
C'était justement à cause des jeunes. En fait, j'ai écrit d'autres histoires avant, une autre histoire pour les jeunes avant, mais je me mettais toujours dans la tête que je devais trouver un moyen de les accrocher eux. Parce que, bon, je l'ai un peu soulevé, beaucoup des jeunes en difficulté avec qui je travaillais n'aimaient pas lire. J'essayais donc de les convaincre des avantages. Puis, comme on sait, les jeunes ont besoin d'appartenance importante, besoin d'identification particulièrement important. Si on part de cette idée-là, pour les accrocher plus facilement à la lecture, je me disais que les jeunes devaient se sentir interpellés par les sujets ou par les personnages, dans un monde idéal, les deux. J'ai donc choisi des histoires qui leur ressemblent, comme c'est le cas de Chaos, comme c'est le cas de d'autres histoires que j'ai écrites, même si c'est un constat un peu triste d'en venir à la conclusion que les drames que j'aborde dans Chaos ne sont pas si extraordinaires dans les faits, ce sont des histoires plutôt réalistes et qui font partie de la vraie vie. Donc, en somme, j'ai pensé que ce genre d'histoire-là les aiderait à mieux... les attirer vers la lecture. Mais si je peux me permettre, au-delà de l'intérêt que j'essaie d'aller chercher chez les jeunes, l'idée derrière Chaos, si je peux me permettre d'étirer un peu ma réponse, ça m'est venu de l'idée de mon observation. Vous savez, quand on regarde les silences qu'on entend entre les gens, parfois il y a des silences lourds. Vous savez, l'espèce de malaise qu'on ressent dans un non-dit. Quand une personne, on leur pose des questions, la personne hésite, on se dit, mais est-ce qu'il ment? Si oui, pourquoi? Mais moi, ces moments-là, ça m'a toujours intriguée. Donc, à travers Chaos, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu un peu explorer tout ça. Pourquoi certaines personnes insistent autant pour faire parler ceux qui ne veulent pas le faire? Et je voulais explorer la tension entre le besoin de connaître la vérité des autres puis en même temps la crainte que leur vérité à eux soit dévoilée. Donc, c'était un peu cette complexité-là que j'ai voulu explorer.
Effectivement, alors, les silences peuvent aussi être des moments de réelle complicité. J'ai plus la référence en tête, mais je sais que dans certaines civilisations, lorsque l'on converse entre amis ou avec quelqu'un d'autre, les silences ont autant d'importance que les moments parlés. C'est des moments parfois où le regard va avoir un impact également, ou juste le fait d'observer le silence, d'accepter que l'autre n'a rien à dire et que nous aussi on n'a rien à dire et que ça devient des véritables moments de complicité et ça fait partie de la conversation.
C'est vrai, vous avez raison de dire que quand même, ça peut même être un moment de complicité. Ces silences peuvent être précieux. Moi, c'était davantage dans les espèces de malaise qu'on ressent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment tangible. Parce que vous savez, il y a la belle complicité dont vous parlez, qu'un silence, un regard peut être un échange entre deux personnes. Mais moi, je parle plus d'un regard fuyant, d'une nervosité, d'une espèce d'évidence que la personne n'est pas tout à fait honnête devant nous. Moi, c'est de cette le silence malaisé plutôt que j'espère explorer.
Alors, effectivement, ce genre de silence peut être lourd parce qu'il y a un côté jugement presque. Est-ce que je suis cru? Est-ce que la personne en face de moi ne me juge pas? Donc oui, effectivement, il y a les silences agréables et il y a les silences plus malaisants, effectivement.
Oui, exactement, c'est vrai.
Pour en venir à vos personnages, ils sont d'une authenticité troublante. Est-ce que vos personnages sont inspirés de personnes réelles que vous connaissez ou vous préférez imaginer vos personnages?
Oui, je pense que la plupart des auteurs s'inspirent un peu autour d'eux. Mais oui, c'est certain que les jeunes, les universitaires dans le Chaos sont inspirés de personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai croisées ou encore d'autres avec qui j'ai travaillé, ou voire même ma fille qui est jeune, qui a 23 ans maintenant, mais qui était vraiment plus jeune au moment d'écrire Chaos. Mais ces personnes-là ne pourraient pas nécessairement se reconnaître. J'ai seulement dressé les principales caractéristiques. Disons que j'ai mis la table en choisissant des personnalités, peut-être des attributs physiques dans certains cas. J'ai choisi des sujets que je voulais aborder. Et après, j'ai laissé les personnages se lancer là-dedans. Parce que c'est ce que je fais toujours en écrivant. D'ailleurs, je suis assez certaine que c'est le cas de la plupart des auteurs. On dresse les bases des situations qu'on veut explorer, on choisit les personnages puis on les laisse faire à leur tête parce que c'est ce qui se passe en écriture, on décide pas toujours quand on écrit, on dirait que nos personnages dans la narration prennent une direction qu'on n'avait pas planifiée et c'est particulièrement mon cas parce que j'écris sans plan.
Du coup c'est encore plus troublant parce que je pense à un personnage en particulier qui est la psychologue dans Chaos. Et elle est assez particulière quand même, donc inspirée d'une personne réelle, c'est assez effrayant.
J'espère que non. J'espère que non et j'espère surtout que c'était pas moi. Non, évidemment, tout n'est pas la réalité. On part avec une base et on laisse aller notre imagination. Mais l'idée était de créer un chaos et de créer créer des malaises, créer des situations embarrassantes, créer des drames dans le cas de certains personnages. Donc, ça prenait quelqu'un comme elle.
Alors, en prenant en compte votre parcours d'intervenante, est-ce que vous pensez que, justement, votre expérience a un impact ou influence votre façon d'écrire et d'aborder l'aspect émotionnel de vos personnages, en fait?
En fait, je dis toujours que mon métier de romancière est un peu le prolongement de mon ancienne carrière. On écrit avec ce qu'on connaît et ce qu'on est avant tout. Donc, c'est certain qu'en étant intervenante, j'écris avec ce bagage-là. Et en tant qu'intervenante, on apprend à écouter au-delà du discours. Parce que, bon, on en a parlé un peu, ce qu'une personne ne dit pas, ça peut être plus révélateur que ce qu'elle dit vraiment. Et ça, c'est précieux quand on écrit. Donc, c'est certain que l'intervenante en moi n'est jamais très, très loin quand j'écris dans un roman. Ça, c'est certain. Et dans le cas de Chaos, ben, mon expérience avec les jeunes, mes souvenirs d'eux, leurs répliques à mes interventions sont absolument dans ma tête. J'entends les jeunes me souffler des répliques, ça c'est certain. Dans la vie en général, si j'oublie mon ancien métier d'intervenante, j'ai toujours été passionnée par la dynamique entre les gens. Donc, c'est certain que tous mes romans, peu importe le sujet, vont toujours passer un peu sous cette lentille-là, sur la lentille psychologique, si on veut. Je suis vraiment, vraiment captivée par les relations entre les gens. Alors, c'est certain que si je décide d'écrire un roman plus humoristique ou que ce soit plus dramatique, plus triste, plus d'action, peu importe, à la base, c'est des humains. Alors, la relation va toujours être exploité. L'aspect humain va toujours être très exploité, c'est certain.
Je tiens à préciser que, en tout cas sur cet aspect psychologique et émotionnel, vos personnages sont absolument crédibles et dans tout le récit, on ressent vraiment des moments de tension, mm-hmm. de joie, mm-hmm. de tristesse. On est vraiment embarqué dans le récit aussi par l'aspect émotionnel et psychologique de vos personnages. Donc, j'ai envie de vous dire bravo, vous avez réussi ça aussi. Donc, bravo.
Et merci, je le prends. Merci. C'est le défi d'un auteur, de tout écrivain, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit crédible. Alors, je vais dire, comme je disais à mes jeunes, je vais mettre ça dans ma boîte à câlins pour les jours plus difficiles.
Alors, le jeu Vérité ou Conséquences est au cœur de ce tome 1 de Chaos. Pourquoi avoir choisi ce jeu en particulier?
D'abord parce que c'est un jeu populaire. C'est un jeu qui est connu dans plusieurs pays. C'est un jeu qui traverse les générations. Mes grands frères, mes grandes sœurs ont joué, j'ai joué, ma fille a joué, possiblement que tes enfants vont jouer plus tard. C'était donc évident que ce jeu-là qu'on retrouve dans les soirées pour ados fait partie de mon roman, parce qu'encore une fois, c'est une façon d'aller chercher l'intérêt des jeunes. Mais je l'ai choisi aussi parce que même si c'est un jeu amusant, ça peut aussi être un piège. En vérité, ça l'est souvent. Dans ces soirées-là, un peu arrosées, il y a des gens curieux, des fois des gens malicieux. Et c'est un peu ça, le roman Chaos. Ils vivent avec, à cause du contexte, à cause, bon, des fois de l'alcool, des fois, peu importe ce qu'on peut retrouver dans ces fêtes-là. Ils vivent avec le dilemme entre dire ou se taire, risquer la vérité ou protéger ton mensonge. Quelle vérité va avoir des conséquences ou pas? Est-ce que toute la vérité est bonne à dire? Bref, c'est un peu tout ça. D'ailleurs, j'aimais beaucoup l'idée que ce soit un jeu de jeunes qui semble banal ou même innocent, que ce soit un jeu comme ça qui soit à la base d'une tournure plus triste ou dramatique. J'aimais le contraste que ça pouvait offrir parce que on s'en va dans une direction Souvent, les drames dans une vie des jeunes ne sont pas voulus. C'est jamais voulu parce qu'ils ont décidé de défier. Ils sont juste innocents. Donc, je trouvais que ça reflétait un peu, ce jeu-là reflétait un peu la réalité de mon roman.
Vos livres audio sont en cours d'adaptation chez AB Story. Alors déjà, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'ils vont être adaptés en audio, interprétés par une voix, et qu'est-ce que vous en attendez en fait ? Est-ce que vous avez des attentes, un espoir, quelque chose ?
La voix apporte une chaleur que le papier ne transmet pas de la même façon. Ça donne une humanité au personnage, évidemment, on va s'en dire. Donc, j'espère que l'audio permettra de faire ressortir certaines émotions peut-être plus difficiles à décrire avec des mots. Donc, ça, c'est peut-être une attente que j'ai. J'ai l'impression que ça va être le cas. J'espère que l'histoire va plaire, bien sûr.
Je dois avouer, effectivement, que je suis assez content du résultat. Alors je continue à travailler sur la post-production du livre audio, en tout cas de Chaos. Et si je peux me permettre, oui, l'interprète Nina Beauchler a vraiment fait un travail formidable pour incarner chacun des personnages. Il y a quelque chose d'assez réaliste dans tout ça. Et puis, j'en parlerai peut-être à l'occasion, mais lorsque je travaille avec les interprètes comme ça sur un livre, je me mets dans la posture de l'auditeur et j'ai vraiment apprécié.
Alors là, vous piquez vraiment ma curiosité. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce que ça fera d'entendre les personnages, j'ai un peu l'impression que je vais les connaître autrement, peut-être. Ça fera comme un peu comme redécouvrir mon histoire sous un nouvel angle. Finalement, je suis la première à être impatiente.
Bon, en même temps, je dis tout ça, et si ça se trouve, en fait, ça va être un total flop et vous allez être déçu du résultat.
J'ai entièrement confiance en vos choix.
C'est gentil. Merci. Bon. Alors, il me reste quelques questions, et notamment celle-ci. Comment arrivez-vous à trouver un équilibre entre les situations plus dramatiques et les moments d'humour, en fait?
En fait, ça, c'est un peu ma marque de commerce en tant que romancière. Les gens me connaissent comme ça. J'écris toujours avec humour, même quand le sujet est sérieux. Et souvent, je dirais, surtout quand le sujet est sérieux, je l'aborde avec humour. J'admets aussi que c'était mon meilleur outil d'intervention dans mon ancien métier. J'ai déjà dit tantôt qu'on écrit avec ce qu'on est, bien, on intervient aussi avec ce qu'on est. Vous savez, parfois, on est un peu à court de mots devant les drames des jeunes. Je travaillais avec des jeunes, parfois des enfants qui avaient des histoires horribles à raconter. Et l'humour était un moyen pour faire baisser la pression. En tout cas, eux répondaient vraiment bien à mes interventions. On dit souvent aussi bien en rire, ben les autres avaient vraiment compris ça. Mais en gros, je résumerai en disant que l'humour fait partie de moi, peut-être même de mes propres mécanismes de défense. Alors, c'est certain que dans mes romans, mes personnages ont tendance à être teintés par qui moi je suis. Mais de toute façon, dans la vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille au niveau des émotions. On vit des hauts, on vit des bas, les émotions suivent. Et même dans les pires moments, on va avoir une phrase absurde qui nous vient en tête, un rire nerveux. Je suis d'ailleurs la reine des rires dans les pires moments. J'appréhende toujours les funérailles ou les choses comme ça parce que la nervosité me fait mal me comporter. Je me retiens quand même, là, sachez-le. Mais j'ai tendance à me sentir embarrassée parce que c'est ce que c'est les émotions, c'est complexe, on comprend pas toujours. Mais j'aime cette complexité-là. Alors, c'est certain que quand j'écris, j'y porte une attention. Mais je sais pas si vous l'avez senti comme ça dans mes écrits. Mais j'ai envie d'ajouter que les moments plus légers dans mes romans, oui, parfois ça sert à alléger les sujets, mais ça sert aussi parfois de contraste. Ça crée un contraste quand on passe d'une émotion à une autre. J'ai l'impression que le fait de jouer avec les tons, les humeurs, ça rend les émotions plus peut-être déstabilisantes dans certains contextes. Et ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Ça me plaît de le faire et ça me plaît quand je lis chez d'autres auteurs aussi.
Je pense que c'est important, effectivement, d'avoir l'équilibre entre des moments plus dramatiques et des moments plus drôles, voire même introduire des moments drôles dans des situations dramatiques. Ça permet aussi d'aérer le roman, d'aérer l'histoire et de permettre au lecteur ou à l'auditeur de respirer et de ne pas être plongé dans des moments de tension ou de drame en permanence. Et je trouve ça plutôt bien, en fait. Très bien, même.
Exactement. Vous avez tout compris. C'est de cette façon-là que je le perçois aussi.
Alors, nous nous rapprochons de la fin de cette entrevue. Et comme je le fais souvent, est-ce que, Sylvie, vous avez un message ou quelque chose à dire à nos auditeurs ou aux personnes qui vont découvrir la série K.O.
En fait, je dirais d'abord merci de choisir mon histoire. Il y a tellement d'options sur le marché que je me sens réellement privilégiée que mes romans connaissent autant de succès. Je le répéterai jamais assez, sans le lecteur ou l'auditeur, dans ce cas-ci, je serais juste une fille avec trop d'imagination. C'est vraiment grâce aux lecteurs, les gens qui choisissent mes romans, que je peux vivre de ma passion. Alors, merci, ça c'est la première chose. Sinon, quant à l'histoire en soi, je leur dirais d'écouter avec l'esprit ouvert et peut-être le cœur aussi. Même si on a parfois l'impression que tout va bien dans la vie des gens, ou enfin, dans certains cas, ça ne va pas si bien. Eux aussi cachent des secrets. C'est un peu le concept de mon histoire, en fait. Donc, restez à l'écoute de votre entourage. Certains vivent peut-être des drames autour de vous, comme dans K.O. Mais pour le reste, prenez pas tout au sérieux non plus. Laissez-vous aller, ça sert aussi à être diverti. Alors, voilà.
Je trouve ça beau. C'est fait pour divertir. Voilà. Est-ce que, Sylvie, vous avez des projets d'écriture futurs, de nouveautés qui arrivent là prochainement?
Oui, toujours. Depuis que je suis tombée en amour avec l'écriture, j'ai un peu la sensation, je dis toujours que c'est comme d'avoir ouvert un robinet d'idées et j'arrive plus à le refermer. Je l'ai dit au début, je pensais jamais écrire un jour. Et depuis que j'ai commencé à mettre mes idées sur papier, j'ai sans cesse de nouvelles histoires. Je viens de publier un roman le mois dernier. Une autre parution est au calendrier pour l'automne. J'en ai trois autres de prévues en 2026. Tous ces romans-là s'adressent surtout à des adultes, mais pas juste à eux. En fait, ça s'adresse à mon lectorat en général. Tout le monde peut sensiblement lire tous mes romans. Dans ces romans-là, ben, qui s'en viennent, il y a des romances, parce que je suis une éternelle romantique, mais il y a aussi des intrigues psychologiques, parce que c'est dans ce genre-là que je me sens en l'aise. Comme je l'ai dit abondamment, j'aime explorer les émotions, et ben, ils sont à l'honneur dans ce genre de récits-là. Donc, oui, j'ai des tomes uniques, mais j'ai aussi des séries qui s'en viennent dans les prochaines années.
Très bien. Bon, en tout cas, les lecteurs et les auditeurs peuvent vous suivre via les réseaux sociaux et votre site internet. Je mettrai les liens de toute façon sur la page du podcast. Et de notre côté, K.O. sortira bientôt. sur AB Story, et ensuite suivra en livre audio Évasion. D'ailleurs, je ne sais même plus si on est dans le bon ordre, Évasion d'abord ou Chaos. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce, enfin, si vous aviez écrit Chaos ou Évasion en premier, j'ai plus les données en tête.
J'ai écrit Évasion en premier, je crois. Ça fait peur, hein, de pas me souvenir. J'ai écrit ça il y a... Oh, attendez, oui, j'ai écrit Évasion en premier. Et Chaos, je l'ai écrit en fait juste un peu avant la pandémie. Donc, ouais, si je me remets en chronologie, j'ai écrit Évasion d'abord.
Ah, bon. Bah, a priori, du coup, nous, on a pris ça un peu à l'envers. Donc, on va sortir Chaos en premier, on sortira ensuite Évasion. Après, on sort les tomes 1 à chaque fois, hein, de chacune des séries. On aurait pu être facétieux et sortir le tome 1 de Chaos et le tome 2 d'Évasion, mais non, c'est pas une bonne idée.
Dans ce cas-là, ça n'aurait pas été possible. Mais parfois, on peut lire en désordre, mais pas dans ce cas-ci. Ça aurait été une très mauvaise idée.
Exactement, non, c'était pas une bonne idée.
Mais c'est justement... ici au Canada, quand la mode est arrivée de ces escape games, c'est ma fille qui m'a inspiré cette histoire-là parce qu'elle est revenue totalement emballée de son expérience d'une soirée. Puis elle m'a dit, maman, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et là, je me suis dit, eh bien, quelle bonne idée. C'est comme ça qu'est née, moi. C'est vraiment comme ça qu'est née l'histoire.
Merci Sylvie de m'avoir accordé ce temps pour cette entrevue. Et on...
Merci.
On se revoit bientôt.
Merci beaucoup.
On se revoit bientôt pour la suite, pour parler de Évasion. Merci à vous encore Sylvie.
En tout cas, merci de choisir mes romans. C'est un très beau cadeau.
À bientôt. Voilà, chers auditeurs, c'était Ramal Ekibi. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce troisième épisode maintenant de notre rubrique Paroles d'auteur. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'auteur avec une ou un nouvel invité. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à commenter sur la page du podcast ou de l'épisode. Et surtout, si vous êtes abonné sur Spotify, Deezer ou sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou juste à mettre des étoiles. Parce que ça nous aide à propulser notre podcast, ça met en avant notre travail et ce qu'on fait. Et comme vous vous en doutez, c'est important pour la visibilité des auteurs, pour la visibilité de nos livres audio, et plus généralement pour que nos émissions soient encore mieux, meilleures et diffusées partout. Voilà, je vous dis à très bientôt sur AB Story, le podcast. Salut.